aujourd'hui, je vous présente le défi de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ce pas de foi. Ça a été un pas de foi quand j'ai demandé à Anne de se marier avec moi. Ça a été un pas de foi. Je ne savais pas si l'affinité intellectuelle, on se connaissait un petit peu, mais l'affinité intellectuelle, elle était à 100%. Puis de toute façon, vous savez, même on a beau passer du temps avec, entre copains et copines, c'est vraiment différent que quand on se retrouve à trier ses chaussettes et ses bas pendant des centaines et des milliers de journées. Donc, on ne connaîtra jamais quelqu'un comme on le connaîtra dans le mariage. Donc, de toute façon, même si nous semble bien connaître la personne, ce sera un pas de foi. La paix intérieure aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu. C'est vrai qu'aussi, ça dépend des psychologies. Certains sont plus incertains et mettront un pas de foi à s'avancer, même si la paix n'est pas à 100%. On est sur la terre, on n'est pas dans le 100% de toute façon. Alors, est-ce qu'il faut demander une toison? Vous savez, demander une toison, c'est demander un signe bien spécifique, par exemple, que, je ne sais pas moi, il y ait telle feuille verte qui tombe, alors que normalement, c'est les feuilles marron qui tombent, un truc comme ça, quoi, à la Gédéon. Là, je dirais, j'ai mis un point d'interrogation. Je crois que Dieu répond à la faiblesse de notre foi. Et parfois, il accorde des toisons. Cela étant, le chemin vers la maturité, je pense, est de se passer de toisons. Alors, comment choisir mon conjoint? Dieu nous donne, on l'a vu, un espace de liberté. Mais il met des limites. Il met un cadre. Et ce cadre, c'est seulement avec un croyant. 1 Corinthiens 7, verset 38. La femme est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Et 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, nous dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, la lumière et les ténèbres, Christ et Béliard, le croyant et l'incrédule, le temple de Dieu et les idoles ?» Vous voyez, c'est des contrastes. L'apôtre les accumule pour les mettre les plus clairs possibles. Et s'il y avait quelque chose qu'on pouvait arrêter dans son cœur, qui ici, quel jeune homme, quelle jeune fille arrêtera dans son cœur en disant « Je ne penserai pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne partage pas la même foi que moi. » Hein, vous savez, dans le temps, on disait « Oh là là, d'un tel, il ne s'est pas marié comme il faut. » Et parfois, c'était juste parce qu'il s'était marié avec quelqu'un d'une autre église, mais qui était un croyant engagé. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Gloire à Dieu s'il se marie avec un chrétien engagé et foin de nos barrières ecclésiastiques. Mais par contre, entre quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu et quelqu'un qui a la vie de Dieu, il y a un monde, il y a un gouffre. Il y a tout ce qui sépare. Et comment on pourrait partager cela avec quelqu'un qui n'est pas croyant? Alors, qui c'est qui arrêtera dans son cœur en disant « Je ne penserai pas ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens sympas. Vous voyez ici, là, j'ai fait mes petites têtes. Ah, lui, il est drôlement sympa. Ah, mais il est dans le cadre gris. Il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire aussi que tous ceux qui sont croyants sont sympas. Je dirais oui, parce qu'il est tout simplement parce qu'il est croyant et qu'il me met la pression en me disant qu'il a connu la pensée du Seigneur. Ça, ce n'est pas le cas. Mais dans ce cadre-là, eh bien, le Seigneur nous donne une liberté de choix et nous rend responsables, hommes et femmes responsables. Et qu'il en soit remercié. Cela étant, il peut arriver que je sois attiré par un non-chrétien. L'attirance est normale. Normal pour un garçon de trouver qu'une fille est bien roulée? Bah oui, c'est normal. C'est pas pour autant que je vais avoir la seconde pensée dont parlait le Seigneur en Matthieu 5 pour convoiter dans mon cœur. Et puis, c'est pas parce que j'ai une attirance que je dois y céder. Ça aussi, il faut laisser aller ses pulsions, on dit aujourd'hui. Non, ce n'est pas la peine de gober les mythes hollywoodiens, comme je le mets. Et de sorte que nous avons besoin de contrôler nos pensées. Et j'ai mis ce texte de 2 Corinthiens 10 qui est très important. Parfois, on a des forteresses dans nos pensées. Et Dieu peut les détruire avec des armes qui sont spirituelles. Alors, c'est un exercice continu et progressif. Mais encore une fois, je répète, qui arrêtera dans son cœur? Alors, comment gérer l'attente? Comment gérer ce temps d'attente? J'ai mis trois adverbes, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'était pas facile en 1990, parce que je me suis marié à 28 ans. J'étais quand même célibataire un certain temps. Ce n'était pas très facile, et je pense que c'est encore beaucoup moins facile en 2007. De sorte que j'ai beaucoup d'affection et de sympathie pour les jeunes qui voient leurs copains couchés à droite et à gauche, qui ont des pressions de plus en plus, surtout quand on arrive à 24-25 ans. Comment? Tu es encore puceau? Mais c'est n'importe quoi, vous voyez? Non, mais je crois, il faut parler les choses clairement. Hein. Donc, on a besoin d'être fidèle en résistant aux pressions. C'est pour cela que j'ai mis ce texte que Daniel a arrêté dans son cœur, Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel a arrêté dans son cœur de ne pas se souiller. Et qui arrêtera dans son cœur, en dépit des pressions, qui sont très fortes? Mais en restant fidèle. Et Daniel, c'est un exemple de fidélité à son Dieu. Et aussi en comptant sur la grâce de Dieu. Parce que si je compte sur mes forces à moi, eh bien je vais tomber. Mais je peux compter sur la grâce de Dieu. Alors, comment gérer l'attente? En promenant le radar tout le temps pour savoir qui c'est qui pourrait être dans le scope et pouvoir... Non, non, non. En étant actif pour être moins tenté. Parce que si l'oisiveté est la mère de tous les vices, et les proverbes confirment cela en le disant de façon un peu différente, c'est que si je suis occupé, si je suis occupé à servir le Seigneur, à m'employer pour lui, si j'ai des bonnes activités, je serai moins tenté que de laisser ces forteresses grandir dans ma tête et peut-être ces mauvaises pensées grandir. Et puis en plus, tout ce que je pourrais faire, ce sera un actif que j'apporterai à mon mariage. Ça aussi, c'est une pensée que j'aimerais vous faire passer. C'est que quand vous arrivez à votre mariage, on met les choses en commun, vous arrivez avec un compte en banque. Ouais, certes, peut-être. Peut-être qu'il est très aimé. Mais si vous avez vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, si vous avez eu des expériences, si vous avez servi pour lui, vous arriverez très riche dans votre mariage. Vous aurez une dot pour votre conjoint, une dot non matérielle, mais une dot spirituelle qui sera riche et qui vous permettra d'avoir un mariage plus riche. De sorte que je veux encourager les jeunes à utiliser cette période avant le mariage, non pas justement pour toujours mettre le radar, mais au contraire pour servir le Seigneur. Et puis le Seigneur répondra. Et souvent, on a vu qu'il répondait dans ces cadres-là. Et puis paisiblement, sans fébrilité inutile. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Cherchez au sens de... tout le temps. Et puis il y a un texte qui m'a beaucoup aidé, parce que pendant mes années de célibat, c'est 1 Corinthiens 7, verset 32. « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Vous savez, parfois l'inquiétude peut ronger. Comment? J'ai 25 ans, je ne suis pas encore marié. Comment mon petit frère ou ma petite sœur, elle s'est mariée et moi je reste sur le carreau? Et ça peut ronger la vie. Or, Paul vient dire avec douceur, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Alors comment on va faire une fois qu'on a un peu des vues sur quelqu'un? Est-ce que c'est mal de sortir ensemble? Alors j'ai mis le danger et limite du flirt. Le flirt, ça peut aller... C'est vaste, hein? Ça peut aller de sortie au ciné à deux jusqu'à ce que j'ai appelé presque trop loin. Vous me comprenez? Alors, est-ce que le flirt serait une protection? Est-ce que c'est être dans la normalité, c'est d'avoir un petit copain? Si tu n'as pas un petit copain ou une petite copine, en tout bien tout honneur, hein, après on abordera ce sujet. Hein. Mais est-ce que c'est, du coup tu es normal, tu es homo ou que sais-je? Oui, non, mais aujourd'hui on vous répond comme ça. Hein. Est-ce que c'est dans la normalité d'avoir un petit copain? Est-ce que c'est une protection? Pas forcément. Parce que les tentations peuvent être importantes et surtout les peines de cœur, parfois durables. Vous savez, on se disait avec Anne, on en parlait à midi avec des amis, on se disait qu'on était très reconnaissant envers le Seigneur de ne pas avoir laissé des cadavres ici ou là, de relations interrompues, de relations un peu ambiguës, on a un peu ensemble, et puis ça casse, et puis c'est pas toujours très clair, etc. Vous savez, souvent il y a des attentes différentes, j'ai mis ce point-là, et que si c'est important de se connaître un peu avant de s'engager, je le pense. Je ne pense pas qu'on soit au siècle où on envoyait une lettre à quelqu'un, une fille qu'on avait vue deux ou trois fois de loin à la sortie d'une réunion. Ça a un peu changé quand même les choses. Eh bien, je pense que bien souvent, quand on commence à sortir ensemble, les attentes ne sont pas forcément au même niveau. De sorte que si oui, réaligner clairement les objectifs et ne pas prolonger et lever des ambiguïtés gênantes. Gênantes pour l'un ou pour l'autre, gênantes pour les amis, etc. De sorte que là, je mets danger et limite du flirt. Conclusion, il me semble que pour connaître, entre garçons et filles, c'est pas forcément mauvais d'avoir des amitiés avec quelqu'un de l'autre sexe. Il faut être prudent. Et ce qu'on pourrait encourager à faire, c'est de relire, quand comme ça on commence à un peu flirter, de relire 1 Corinthiens 13. Vous savez, 1 Corinthiens 13, il y a 15 caractéristiques de l'amour. Et puis on check, est-ce que ma relation, mon petit flirt actuel, il valide ces 15 points? Voilà. Sauf que parfois, le groupe, être en groupe, eh bien, ça permet aussi de se connaître. Et c'est moins ambigu, ça peut faire moins de dégâts que le tête-à-tête. Alors, voilà, on a appris à se connaître un petit peu, on a discuté, on s'est engagé un petit peu vis-à-vis de l'autre. Et puis, est-ce qu'il faut faire des fiançailles officielles? Ah, alors, fiançailles, c'est une période dont le sens précis a évolué. Il semble qu'au temps biblique, c'est un engagement qui était plus fort et plus précis qu'aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est une réalité culturelle intéressante parce que ça permet d'approfondir une relation avec directement le mariage en vue. On a un beau texte dans le livre du prophète Osée qui nous dit, c'est Dieu qui parle pour son peuple Israël, on peut le transposer puisqu'on se rappelle que l'image est dans le ciel, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi en justice, en jugement et en bonté, en miséricorde, je te fiancerai à moi en vérité. » D'ailleurs, vous voyez ces cinq termes, justice, jugement, bonté, miséricorde et vérité, ça peut être une bonne base pour de bonnes fiançailles. Alors, les fiançailles, c'est quand même important. Ça permet de garder la possibilité d'une rupture qui est toujours douloureuse, qui n'est jamais souhaitable, mais qui parfois est nécessaire et qui, en tout cas, est bien mieux qu'une vie entière de galère avant l'alliance définitive. Cela étant, pour ceux pour qui les fiançailles ne posent pas de problème, je trouve que c'est intéressant, ça permet de bien commencer dès cette période-là. J'encourage ceux qui sont fiancés ou ceux qui se fianceront un jour à bien commencer dès ce moment-là, à commencer à lire la Bible pendant les fiançailles ensemble, à prier ensemble pendant les fiançailles, à beaucoup parler ensemble dès les fiançailles. Parce que c'est comme cela qu'on va pouvoir commencer à poser un petit peu les jalons d'un mariage heureux. Alors, on a appris à se connaître, on s'est fiancé, le mariage est là dans 3 mois. Pourquoi on ne coucherait pas ensemble? Tout le monde fait ça. Ben oui, tout le monde fait ça. Un principe démodé, j'ai pris un sondage, vous savez, il y a 1 mois, dans l'hebdomadaire La Vie. La question était la suivante. Pensez-vous qu'il est important de garder sa virginité jusqu'à son mariage? 7% de la population française répond oui. Jusqu'à ce qu'on ait constitué un couple, 6%. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment amoureux, 24%. Et ce n'est pas important de garder sa virginité, 59%. Faites le total, il y a quelques indécis, ça fait ça. 59%. Et ce qui m'a fait de la peine aussi, c'est que ce sondage, étant dans un hebdomadaire catholique, il y avait une sous-colonne catholique pratiquant. Et au lieu de 59%, c'était 49%. Enfin, ça ne changeait pas l'ordre de grandeur. Donc c'est un principe démodé. Donc je suis un vieux ringard qui vous parle. Non, je ne suis pas un vieux ringard qui vous parle. Pourquoi? Parce que nous avons des raisons bibliques. Nous avons déjà vu l'ordre de Genèse 2. Dans la loi, il y a une loi sur la virginité qui montre que du temps de Moïse, le marié il s'attendait à trouver sa femme vierge. Et l'inverse, j'espère aussi. L'exemple de l'Église, en 2 Corinthiens 11, Paul dit qu'il a fiancé l'Église à Christ, à un seul mari, comme une vierge chaste, et puis le sens de la fornication. Dans la Bible, nous avons des exemples bibliques. Nous avons des exemples positifs, comme Jacob qui a su attendre 7 ans. Et ce fut à ses yeux comme peu de temps, car il l'aimait. Un des plus beaux versets de la Genèse. Ou Samson aussi, qui a attendu, on voit ça en Genèse 14. Ce n'est pas des exemples auxquels on penserait, mais ils sont intéressants. Ils ont célébré leur mariage avant de coucher. Et puis Joseph, dans le Nouveau Testament, s'attendait à trouver Marie vierge. Au point même que quand il apprend qu'elle est enceinte, il veut la répudier. Et puis on a des exemples négatifs avec David, avec Bathsheba, ou Amnon avec la demi-sœur Tamar. Beaucoup d'exemples tristes. Et puis, il y a aussi des raisons physiologiques ou psychologiques pour dire qu'il faut attendre. Pourquoi? C'est que le cadre d'alliance du mariage donne une sécurité utile à des relations entre des conjoints. Et vous savez, il y en a qui disent « Oui, mais comment je saurais que nous sommes compatibles physiquement si on ne s'essaye pas un peu avant ?» Je vous assure que vous ne savez pas plus, même si vous avez couché 1, 2, 3 fois après. Parce que ça prend beaucoup de temps de construire cela. Donc c'est illusoire de penser qu'on va tester ça et qu'on saura si c'est oui ou non. Donc le cadre d'alliance du mariage donne une sécurité utile à des relations réussies, surtout au début. Puis, si jamais il y a une grossesse, l'enfant doit naître dans une sphère protégée. Et enfin, la période de fiançailles est une découverte inaboutie et parfois, malheureusement, elle peut se rompre. Mais néanmoins, j'aimerais faire un conseil, c'est de ne pas prolonger indéfiniment les fiançailles. Et là, parce qu'on court le risque de créer des tentations difficiles à juguler. Et là, parfois, notre contexte culturel, même dans les assemblées de frères, on n'est pas en aide. Pourquoi? Parce qu'un mariage, il faut que ce soit l'été, il faut qu'on ait réservé le restaurant pour un samedi de juillet, et donc du coup, on repousse ça dans 2 ans, et dans les 2 ans, ça casse. Mais c'est normal, parce que c'est trop long, 2 ans. Je vous assure que je connais des couples qui se sont mariés en janvier, ils faisaient un temps pourri, et ils forment un très beau couple. Et il vaut mieux ça. S'ils ne savent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, en vous disant cela, je ne suis pas là pour vous vendre une morale petit bourgeois, ringarde. Mais la Bible, c'est la parole du Créateur. Et le Créateur, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui nous a créé hommes et femmes. Et il sait comment on fonctionne. Et dans la Bible, c'est le mode d'emploi. De sorte que si on ne prend pas le mode d'emploi, c'est la même manière quand on a un nouvel appareil, si avec ce Mac, je n'avais pas pris le mode d'emploi, j'avais fait n'importe quoi, il se serait cassé, il n'aurait pas marché. Voilà. De sorte que quand on prend le mode d'emploi et qu'on suit le mode d'emploi, eh bien, c'est beaucoup mieux. Alors, en conclusion de cette première partie, pour ce défi de l'engagement, 3 points. Le premier, c'est rester pur en attendant le mariage, en dépit des pressions, et elles sont terriblement fortes, et elles vont encore s'accentuer. Deuxièmement, ne pas porter les yeux sur un non-chrétien. Il y a cette fille-là, elle n'est pas chrétienne. Je chasse l'idée. L'idée, la pensée va revenir peut-être, parce que je la trouve jolie, mais je la chasse. Non, Seigneur, non, pas avec elle. J'arrête dans mon cœur. Et puis, prendre avec foi une décision courageuse qui engage la vie entière. C'est un pas de foi. De sorte que face à la peur de l'engagement, cette peur de l'engagement que l'on trouve terrible aujourd'hui, au point qu'elle justifie la cohabitation actuelle, peur de l'engagement, la réponse chrétienne, c'est un pas de foi avec notre Seigneur qui veut notre bonheur dès la terre.